Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 33e dimanche. Sur le mont des Oliviers, comme Jésus est assis face au temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogent à l'écart.
« Dis-nous quand ce sera et quel est le signe que tout cela doit s'achever ?»
Alors Jésus se met à leur dire.
« En ces jours-là, après une détresse inouïe, le soleil s'obscurcira et la lune ne brillera plus, et les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Alors il enverra les messagers et les quatre vents d'une extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera les élus. Apprenez de la parabole avec le figuier. Quand la branche devient tendre et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ainsi vous aussi, lorsque vous voyez que cela arrive, vous savez que le Fils de l'homme est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passe pas avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour ou à l'heure, personne ne le sait, ni les messagers dans le ciel, ni le Fils. Il n'y a que le Père. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, voilà aujourd'hui des images de terreur qui peuvent frapper notre imagination et qui risquent de nous faire peur. Ces passages des évangiles, eh bien, ce sont certainement parmi les plus difficiles à comprendre et donc parmi les plus contestés chez les spécialistes. Il nous faudra chercher à savoir ce que veulent dire exactement ces images qui sont tirées de la Bible et quelle est le message qui se cache derrière elle.
Où trouvons-nous ce passage dans le récit de Marc?
Ce passage de l'Évangile est situé au terme de la montée vers Jérusalem. Jésus est entré triomphalement dans la ville et il a chassé les marchands du temple. Pour lui, l'heure de la passion et de la mort est proche. C'est en sortant du temple qu'un disciple fait remarquer à Jésus la beauté grandiose de l'édifice. Mais Jésus répond en prédisant sa ruine prochaine.
Tu vois ces grandes constructions? Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit.
Et il va décrire cette destruction du temple avec des images de fin de monde. L'ensemble du chapitre 13 décrit donc un climat assez sombre de l'avenir. La ruine du temple de Jérusalem, le commencement des persécutions, la grande détresse, l'effondrement du cosmos. L'évangéliste emprunte à certains textes bibliques leurs images terrifiantes. Ce discours, il a été introduit par l'interrogation des quatre disciples les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques, Jean et André.
Dis-nous quand ce sera et quel est le signe que tout cela doit s'achever?
Nous avons certainement, nous les chrétiens d'aujourd'hui, un peu de peine à nous imaginer quelle terrible tragédie pouvait être la destruction du temple pour les Juifs. Hérode avait commencé la reconstruction du temple depuis l'an 20 avant notre ère. Et au moment où Jésus va mourir, la reconstruction n'est pas encore achevée. Avec ses magnifiques pierres blanches, avec ses toits étincelants d'or, l'édifice du temple est l'une des merveilles de l'époque. Mais bien plus, le temple représente la demeure de Dieu. Il est le signe de sa présence au milieu de son peuple. Alors, si le temple est détruit, c'est un peu comme si Dieu abandonnait le peuple qu'il a élu.
Comment Jésus peut-il prédire cette destruction?
Oh, il ne la souhaite pas. Et au contraire, il la considère comme un grand malheur. Mais la situation politique d'Israël est telle, à son époque, qu'on peut prévoir cette issue tragique. En effet, Israël est occupé depuis près de 100 ans par la Rome toute puissante. Les Juifs, les plus croyants, se demande comment le Dieu d'Israël, maître de l'univers, peut-il se laisser humilier par les dieux romains. La résistance s'organise en effet dans plusieurs groupuscules juifs qui deviendront ces zélotes qui obtiendront la libération de Jérusalem en l'an 66. Or, on sait que Rome réagit toujours avec une rare brutalité pour vaincre toute résistance, et c'est effectivement ce qui arrivera, puisqu'en l'an 70, Jérusalem et son temple seront détruits par le général romain Titus. Jésus pouvait donc prévoir cette tragédie. Mais sa pensée ne s'arrête pas seulement à l'avenir du temple, il va élargir sa réflexion. Cette épreuve dramatique va être pour lui le symbole de ce que doit vivre l'humanité tout au long de l'histoire. En effet, les puissances du mal continuent et continueront toujours leur combat contre les forces du bien. L'évangile de Jésus ne peut malheureusement pas empêcher les malfaisants de faire leur œuvre. Et cela parce que Dieu, le Père, est un Père qui n'est qu'amour et qui ne peut donc supprimer la liberté des êtres humains. D'une certaine manière, Dieu est impuissant face à la liberté des malfaisants. Il ne peut vaincre par la force, il ne peut que convaincre par sa bonté. Jésus va donc décrire le drame de la puissance du mal.
On se dressera nation contre nation, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, on vous conduira pour vous livrer. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ces jours-là seront des jours de détresse. De faux messies, de faux prophètes se lèveront et feront des signes et des prodiges pour égarer même les élus.
Une telle description, catastrophe, calamité, effondrement du cosmos, est ce qu'on appelle dans la Bible un récit apocalyptique. Le terme « apocalypse » désigne un genre d'écrit qui veut révéler ce qui est plus ou moins caché. Le mot grec « apocalypse » signifie « découvrir ce qui est couvert, dévoiler ce qui est voilé ». L'époque de Jésus connaît d'ailleurs de nombreux récits apocalyptiques. Et tous ces récits tentent de dévoiler le mystère du monde, le mystère des êtres et des événements, leur sens profond, leur sens éternel. Et ce dévoilement concerne donc souvent la fin des temps, le terme de l'histoire. On peut d'ailleurs comprendre le mot « fin » de deux façons, soit comme une date, la date de la fin du monde, mais aussi comme le but, quelle est la finalité, le destin du monde, sa fin. Et les deux sens peuvent se juxtaposer. C'est à la fin du temps que se manifestera en pleine lumière la finalité du temps. Le terme de l'histoire révélera le but du projet de Dieu lorsqu'il crée l'univers et l'humanité. C'est ce que veut décrire notre texte.
Et alors on verra le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire.
Les contemporains de Jésus attendent donc l'intervention prochaine de Dieu dans l'histoire. Pour eux, le Dieu Tout-Puissant ne peut pas permettre la déchéance de son peuple. Il va intervenir pour punir les méchants et pour sauver ceux qui lui sont fidèles. Ce jugement de Dieu va se faire à travers des temps d'épreuves, des conflits de toutes sortes. Les mauvais ils seront exterminés, mais les bons vont aussi souffrir, avant que la victoire finale n'arrive, avec l'avènement d'un roi messie envoyé par Dieu. Pour décrire ce jour, cette victoire de Dieu sur les forces du mal, on le fait avec des images symboliques, des images qui utilisent les bouleversements cosmiques. En effet, chez tous les peuples de l'Antiquité orientale, les astres étaient les divinités maîtresses de l'univers. Alors, parler de l'éclipse du soleil ou de la lune, parler de la chute des étoiles, c'est donc attester le triomphe du Dieu unique sur les idoles des païens. Et c'est pourquoi les prophètes vont décrire la victoire de Dieu sur les malfaisants comme sa victoire sur les puissances astrales. La lumière du Dieu unique créateur de l'univers vient remplacer la lumière des astres la lumière de ces divinités païennes. C'est ce que faisait déjà le livre d'Isaïe en décrivant le grand jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de sa victoire.
Voici qu'est proche le jour du Seigneur. Les étoiles du ciel et Orion ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, la lune ne donnera plus sa lumière. Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, ce n'est plus la clarté de la lune qui sera pour toi la lumière de la nuit. Mais c'est le Seigneur Dieu qui sera pour toi la lumière éternelle.
Eh bien, Jésus va reprendre ces images en ces jours-là, après une détresse inouïe. Le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Un autre livre, l'Apocalypse de Jean, décrira avec les mêmes images la Jérusalem définitive, c'est-à-dire celle qui va être la demeure de Dieu parmi les humains.
J'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les humains ». Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. La cité où se rassembleront les élus n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations païennes marcheront à sa lumière.
Alors il ne faut pas que ces images de catastrophe cachent ce qu'est le message final. Si les astres ne brillent plus, eh bien c'est parce que l'astre divin, le Fils de l'homme, les aura remplacés. Comme le dira le récit évangélique de Jean, déjà, dès sa première venue, Jésus est la vraie lumière.
Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les humains ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Mais au-delà de la mort, le Fils de l'homme reviendra pour être définitivement la lumière de l'humanité. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui-même va dire au grand prêtre lors de son arrestation.
Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Quel est le sens du titre de Fils de l'homme que Jésus s'est attribué?
Ce personnage du Fils de l'homme, eh bien, on le trouve dans le livre biblique de Daniel, un livre qui a été écrit quelques 150 ans avant Jésus. Dans une de ses visions, le prophète Daniel décrit le Fils de l'homme.
Voici venant sur les nuées du ciel comme un Fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit dans sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit.
Ce texte de Daniel, au moment où il a été écrit, voulait redonner l'espérance au peuple de Dieu qui avait été écrasé depuis 600 ans par plusieurs dominations successives. D'abord celle des Babyloniens en 721 pour le royaume du Nord, puis en 587 pour le royaume du Sud, puis la domination des Perses de 538 à 333, et enfin celle des Grecs de 320 à 142 avant notre ère. Et le dernier roi grec, Antiochus IV, avait porté la persécution contre les Juifs à son comble. Il avait en effet dédié le temple de Jérusalem, ce temple qui est pour les Juifs la présence de Dieu sur terre. Eh bien, il avait dédié le temple de Jérusalem au dieu grec Zeus. Mais Dieu donnera en son jour la victoire en son peuple, voilà ce que dit Daniel. Et c'est le personnage du Fils de l'homme qui va recevoir la victoire comme étant le représentant de tous les fidèles de Dieu. Daniel voit ce Fils de l'homme sur les nuées, une expression symbolique qui exprime la présence de Dieu, peut-être en soulignant que l'humain ne peut pas le voir à découvert. Oui, le mystère de Dieu reste voilé à nos yeux, un peu comme une épaisse brume matinale, une nuée, peut voiler le soleil levant. Les récits évangéliques nous disent que Jésus s'est attribué souvent ce titre de Fils de l'homme. L'avènement céleste du Fils de l'homme va marquer l'intervention victorieuse de Dieu dans cette grande histoire d'amour avec l'humanité, une histoire où se mêlent les temps de fidélité et les temps de reniement et d'abandon. À la fin, la communion du divin et de l'humain, initiée humblement par Jésus, va prendre toute son ampleur. En ce jour, en cette heure, le Fils de l'homme rassemblera autour de lui tous ceux qui seront dans l'amour de Dieu. Comme le Fils de l'homme de Daniel représente le peuple des saints, ainsi le Fils de l'homme qu'est Jésus s'identifie avec la multitude de tous ceux pour qui il va donner sa vie.
Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Contrairement à la vision de certains courants juifs de son temps, qui réservaient le salut à une élite, un peu comme faisaient les Esséniens, Jésus promet de rassembler la multitude. Une multitude qui n'exclut personne, et au contraire, qui veut redonner vie aux plus petits, aux plus pauvres. Le Fils de l'homme est venu pour les pécheurs et non pour les bien portants. À travers cette figure du Fils de l'homme, nous pouvons retrouver ce que décrit l'évangile de Jean lorsqu'il parle de la demeure de Jésus en ceux qui sont ses disciples.
« Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. »
Mais cette figure du Fils de l'homme, c'est aussi ce que Paul signifie lorsqu'il parle du corps du Christ.
Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Oui, à travers toute l'histoire biblique, Dieu apparaît à Israël comme le Dieu qui rassemble. Le Dieu qui est un veut faire vivre cette communion, veut faire vivre tous les humains dans l'unité. Alors avant que commence l'épreuve de la passion qui va les disperser, Jésus promet à ses disciples qu'en son heure, il les rassemblera.
« Je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. »
Et c'est sans doute aussi le sens de la parabole du jugement dernier.
« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. » Devant lui seront rassemblées toutes les nations.
Seront rassemblées toutes les nations. Jésus ne porte peut-être ce titre de Fils de l'homme que pour signifier qu'il doit réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Il est venu pour les faire vivre de cet amour de communion qui vit dans le cœur de Dieu. Et ce sera enfin le thème principal de la prière de Jésus lors de son dernier repas.
Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Apprenez de la parabole avec le figuier. Quand la branche devient tendre et que les feuilles poussent, vous savez que l'été approche. Ainsi vous aussi, lorsque vous voyez que cela arrive, vous savez que le Fils de l'homme est proche aux portes.
La question des quatre disciples avait été « Dis-nous quand ce sera et quel est le signe que tout cela doit s'achever ?» Eh bien, Jésus nous dit que nous avons à apprendre du figuier. En Palestine, le figuier est un arbre très commun, et qui donne vraiment le signal du printemps, car si le froid peut surprendre parfois les amandiers en fleurs, le froid ne revient plus quand les feuilles du figuier ont apparu. Ainsi, dès que les feuilles du figuier ont fait leur apparition, on peut se dire que vraiment l'été approche. Eh bien, on pourrait aussi prendre une autre comparaison, comme celle du moment qui sépare les premières lueurs apparaissant dans le ciel et le véritable lever du soleil à l'horizon. En effet, pour celui qui attend ce lever du soleil, les minutes qui s'égrènent entre les premières lueurs peuvent paraître des heures, au point qu'il se met à douter que le soleil ne se lève. Et pourtant, il sait que ces lueurs annoncent la venue du soleil. Eh bien, ces comparaisons veulent nous instruire. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ? Les épreuves de la lutte contre les forces du mal sont telles qu'elles peuvent nous faire douter de la victoire de Dieu. Mais pourtant, nous savons que la puissance de Dieu, que la puissance du Messie viendra parce qu'il est proche, il est aux portes. La multiplication des faux prophètes, le malheur des populations affamées, tout cela ne doit pas affaiblir l'espérance. Eh bien, ces épreuves sont de toujours, elles sont encore actuelles. Aujourd'hui, les guerres civiles ravagent de nombreux peuples, la famine détruit des populations entières. N'oublions pas non plus les pauvres de chez nous dont les enfants partent à l'école le ventre vide, ou les jeunes qui sont sans travail et sans espoir et qui se suicident trop nombreux. Les séparations qui détruisent les familles, les personnes aînées dont les existences semblent s'éterniser dans la solitude. Mais il n'y a pas que les épreuves sociales. On peut aussi évoquer notre détresse personnelle, cet égoïsme qui est sans cesse récurrent en nous, notre médiocrité, notre paresse, cette tristesse absolue de ne pas vivre, de ne pas être comme des saints, de ne pas vivre comme des êtres de bonté. S'il nous faut, avec Jésus, regarder tous ces motifs de désespoir, est-ce que ce n'est pas pour nous aider à voir, au milieu de toutes ces fleurs du mal, les bourgeons de quelques fleurs du bien ? Oh, je pense à cet Américain qui est pasteur protestant à Alger. Pendant la guerre du Golfe, des gens s'en sont pris à son église. Mais quelques voisins musulmans lui ont écrit ce mot courageux. « La situation, écrivait-il, nous place dans des camps opposés, mais nous restons vos amis. Vous êtes une part de nous-mêmes, et si vous avez besoin de nous, sachez que nous sommes là. » Je pense aussi à cette infirmière qui écrit « Parmi les personnes que j'ai accompagnées à la mort, il en a une qui m'a particulièrement bouleversée, Patricia, une jeune femme complètement paralysée, qui ne parlait plus et ne bougeait plus que les yeux. Mais elle rayonnait d'une telle joie intérieure que personnel de l'hôpital et amis se pressaient dans sa chambre. Elle est morte en nous transmettant quelque chose d'infiniment précieux. Oui, Dieu et le Fils de l'homme sont toujours là à nos portes. Alors, saurons-nous leur ouvrir, comme le dit si bien le texte de l'Apocalypse de Jean.
« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. » Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père.
N'est-ce pas étonnant de constater que même le Fils Jésus, lui qui vit en communion profonde avec Dieu Père, que même lui ignore le jour de la victoire finale. Rappelons-nous pourtant qu'il connaît le Père d'une façon unique.
Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
Alors comment interpréter cette ignorance de Jésus ? Est-ce que ce n'est pas la volonté de nous garder vigilants, comme le dira la suite du texte ? Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Cette ignorance les premiers chrétiens vont la traduire par l'image du voleur.
Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous se prenne comme un voleur.
Le disciple de Jésus n'est pas forcément un être optimiste. Il se situe au-delà de l'optimisme comme du pessimisme. Il est habité non pas par l'espoir, mais par l'espérance, la petite fille espérance, comme l'appelait Charles Péguy. Le disciple de Jésus sait que le monde sera rempli jusqu'à la fin de tous les méfaits du mal. Il sait aussi que lui-même sera sans cesse tenté, comme son maître l'a été, tenté de douter que l'amour peut vaincre vraiment le mal, douter que la bonté soit plus utile pour convaincre le cœur du malfaisant que tous les châtiments, douter que Dieu s'occupe vraiment de nous et parfois penser qu'il peut nous abandonner. Rappelons-nous toujours les tentations du désert. C'est d'ailleurs pour triompher de cette tentation que Jésus a demandé de prier.
Il leur dit, « Quoi, vous dormez? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. »
Un vieil ami exprimait ainsi son optimisme humain. Le monde, disait-il, est un vaste bordel et toutes les idéologies et les religions ne le changeront pas vraiment. Mais pourtant, ce que chacun fait de bien, si petit cela soit-il, empêche le monde de devenir pire. Eh bien, à cet optimisme humain, Jésus ajoute l'espérance. « En son jour, dit-il, Dieu rassemblera tous ceux qui, dans leur vie, auront misé sur la bonté, afin qu'ils vivent une communion éternelle en son amour. » Oui, la victoire de Jésus sur la mort au matin de Pâques est le gage de cette vie qui nous est promise. Les petites fleurs du bien, c'est-à-dire ce que chacun peut faire dans l'ordinaire de sa vie quotidienne, ne sont peut-être que des bourgeons, mais, nous dit Jésus, ces bourgeons sont pour nous gages que notre vie s'épanouira dans la bonté au jour et à l'heure de Dieu.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Bénuchot.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.